Allô tout le monde, bienvenue au podcast Pas de trouble de la Croisée des Sentiers. Merci de nous écouter encore. Je suis avec mon collègue Guillaume, moi c'est Caroline. Et puis aujourd'hui, on va parler de violence conjugale avec la Méridienne. Je vous laisse présenter les deux expertes de la Méridienne.
Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Sabrina, je suis coordonnatrice à l'intervention de jeunesse à la Méridienne.
Oui, bonjour, moi c'est Marilyn, je suis intervenante jeunesse à la Méridienne.
Yes, bienvenue. Merci d'avoir accepté là, d'être avec nous ce matin
Merci à
pour
vous.
démystifier un petit peu plus vos services puis ce que c'est la problématique de la violence conjugale. Donc, je vous laisserai peut-être nous introduire un petit peu là, justement, c'est quoi la Méridienne, parce que là, on nomme le nom, mais officiellement, qu'est-ce que ça fait dans la vie de la Méridienne?
Oui, ben en fait, la Méridienne, à la base, c'est qu'on est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, on a vraiment une maison qui est située dans la MRC de Saint-François, où qu'on va accueillir les femmes et les enfants qui sont victimes de violences, qui ont soit un besoin de repos, un besoin de sécurité, de sortir d'un milieu violent pour etc. Donc, nous, on va les accueillir dans notre maison. Donc, c'est notre volet maison. Dans le volet maison, on va offrir des accompagnements, des rencontres individuelles, des interventions de groupe. On va faire toute une gamme de services là, à l'interne. Puis quand je parle d'accompagnement, c'est par exemple au niveau aide sociale, au niveau de faire une demande d'HLM, accompagnement à la cour civile, cour criminelle, cour de la jeunesse. Donc vraiment toute une gamme d'accompagnement qu'on va faire là, en hébergement pour les femmes. Puis on a aussi un volet d'écoute téléphonique 24/7. Donc en tout temps, une personne peut nous appeler si on a des questions, s'ils veulent faire une demande de service. Ça peut être un proche qui veut avoir de l'aide. Ça peut être un professionnel qui se questionne par rapport à un client qu'il peut avoir. Donc c'est vraiment une écoute 24/7. Donc ce qui veut dire tous les fériés, tous les vacances, la nuit, peu importe. Là. Donc il y a toujours une intervenante qui est disponible pour répondre au téléphone.
Super. Puis dis-moi, là, vous te parlez de Haut-Saint-François, mais est-ce que, dans le fond, les services s'adressent qu'à la population du Haut-Saint-François ou ça s'adresse à d'autres MRC?
Oui, en fait, nous, c'est sûr que notre maison est située dans l'Haut-Saint-François, donc on va desservir le territoire complet du Haut-Saint-François. Tout ce qui est au niveau de l'hébergement, bien, nous, on est un organisme régional. Donc, on peut avoir des femmes qui viennent d'un peu partout, même du Canada. Là, on a déjà des femmes de l'Ontario, par exemple.
Ah, OK, super.
Donc, c'est vraiment régional. Puis, tout ce qui est notre volet externe, qu'on va expliquer après, le volet externe, oui, on l'offre aussi dans l'Haut-Saint-François, mais on va aussi l'offrir dans la MRC des Sources. Donc, ce qui veut dire qu'on peut se déplacer là, à Val-des-Sources, à Saint-Camille, à Watton, à Denville aussi, qu'on peut se déplacer là, pour le volet externe.
Super cool. Merci.
Est-ce qu'il y a des services que vous voulez nous parler un peu plus en détail? C'est quoi les services qui prend le plus de votre temps, peut-être?
C'est une bonne question. En fait, c'est sûr que notre maison, ça, c'est notre majorité, c'est notre
Ouais.
premier service qu'on est vraiment subventionné pour avoir notre maison d'hébergement. Donc, c'est sûr que ça, c'est 100% de notre temps parce que notre maison est toujours pleine de femmes et d'enfants. Donc, ça, c'est 100%. Puis, on va avoir l'extra qui est vraiment au niveau des suivis externes, des ateliers qu'on va offrir à la population générale, aux professionnels, la formation en violence conjugale. Donc, ça, c'est comme un surplus qu'on offre qui va prendre aussi une grande place là, de notre temps, si je peux dire.
Puis disons, c'est parce qu'on a parlé de externe de maison, puis on va démystifier un petit peu plus vraiment les services que vous offrez là, par la suite, mais quelqu'un qui voudrait là, avoir un hébergement chez vous, comment ça fonctionne la porte d'entrée pour y accéder?
Est-ce que c'est le numéro de téléphone, tu l'as 24-7? Est-ce que c'est par là qu'on passe habituellement? Est-ce que ça passe par des intervenants des fois? Hein? Tu sais, des fois, on a besoin d'une référence d'un autre intervenant.
Oui, c'est le téléphone, effectivement.
OK.
Il faut nous appeler pour faire une demande de service, peu importe que ce soit hébergement ou suivi externe. Par contre, il n'y a pas besoin de référence formelle d'un autre professionnel. Ça peut être seulement, vous vous questionnez sur votre relation, vous vous questionnez sur la relation de quelqu'un d'autre, peut-être d'un proche. Vous pouvez nous appeler, il n'y a vraiment pas de problème. Puis il y a toujours une intervenante qui va répondre.
Super, fait que c'est ça, il y a de l'accompagnement aussi. Ben, enfin, merci pour décrire la porte d'entrée, mais aussi ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'accompagnement pour les proches aidants, pardon. Fait que quelqu'un qui se questionne, mettons, tu sais, attends, je sais pas, moi, une maman qui disait, ma fille, il me semble que la relation qu'elle vit, il y a peut-être des éléments de violence ou je suis pas certaine, tu sais. Quelqu'un peut appeler comme ça aussi pour avoir un petit peu d'aide, là.
Comment je peux l'aider? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle vit? Ça fonctionne? Puis quand c'est nous-mêmes qui se questionnent, c'est la même chose. T'sais, je ne sais pas quoi faire. C'est quoi mes options? Est-ce que c'est vraiment ce que je vis? Ça aussi, c'est des questions auxquelles on peut répondre au téléphone.
Puis pour les proches, on peut même aller les rencontrer.
Ah,
Donc,
cool.
on va offrir peut-être pas un suivi aussi long qu'à une personne victime. On va offrir au moins un 3, 4, 5 rencontres au besoin là, pour si c'est vraiment un besoin chez la personne. On peut vraiment se déplacer aussi. Donc, ça peut être seulement par téléphone une fois, un petit 5 minutes, comme ça pourrait être une rencontre en personne là, si le besoin là, du proche.
C'est super. Ça me fait penser, puis on reviendra, parce que j'aimerais ça que vous décriviez vraiment les types de personnes. On a parlé de femmes, oui, mais bon, il y avait le volet jeunesse, il y avait d'autres volets. On pourrait peut-être décrire ça, mais ça me fait penser que c'est l'importance aussi de savoir déceler un petit peu, puis d'agir en prévention, puis de quand on se questionne vers qui, comment, puis comment aider. Là. Fait que ça, serait quelque chose d'intéressant aussi là, qu'on pourrait reprendre tantôt. Là.
Oui.
Merci. Et qu'on peut peut-être ça vous permettre de décrire là, vraiment à qui ça s'adresse, c'est même oui aux femmes, mais quel âge, bon, on parlait même de l'Ontario, tu sais, fait que c'est vraiment.
Bien, au niveau jeunesse, on a comme deux types, je dirais, là, de suivi qu'on peut offrir. Fait qu'il y a, ben, c'est sûr qu'il y a l'hébergement puis il y a l'externe, mais en externe, il y a les jeunes filles qui sont victimes de violences amoureuses, que l'on peut faire un suivi avec elles pour qu'elles puissent reprendre du pouvoir, qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qui se passe, puis après ça, apporter des solutions selon ce qu'elle veut. Puis, on a aussi les enfants qui sont victimes de violences conjugales dans leur famille. Fait que, par exemple, ça pourrait être un adolescent, ça peut être un garçon là, ou une fille, que dans la famille, les parents, il y a de la violence conjugale, puis eux, ils vivent dans une maison où il y a la violence conjugale, finalement. Mais ça, moi, je me suis étalée, mais en tout cas, vous avez compris. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme ces deux types-là. Là. Fait que, oui, principalement, on s'adresse aux femmes, aux jeunes filles, mais si les enfants sont victimes de violence des parents, ben je veux dire, violence conjugale chez les parents.
Que... Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'un garçon adolescent qui est victime dans sa relation à lui, nous, c'est pas notre mandat.
Non.
Donc, on ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est simplement que c'est pas notre mandat. Mais on pourrait rencontrer un garçon qui est victime dans sa famille.
Okay. Un garçon qui se questionne sur est-ce que moi, je fais de la violence ou vous allez vous concentrer vraiment sur la relation avec la femme, puis le mandat, puis d'autres ressources, effectivement.
Pour... Ça peut pas empêcher qu'un garçon peut nous appeler quand même s'il se questionne, si justement il y a des comportements violents. Il peut quand même nous appeler. On va offrir un certain service à ce garçon-là, mais on ne pourra pas offrir un suivi.
Non,
c'est là l'importance de l'écoute téléphonique qui est très, très vague. Donc, ça peut être un garçon, justement, qui se questionne, un proche, une jeune fille, c'est très vague. Puis nous, à ce moment-là, on va évaluer le besoin, on va évaluer la situation et au besoin, on va orienter vers d'autres ressources. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours de plus nous appeler. Nous, on va quand même offrir une certaine écoute, on va faire de l'intervention et par la suite, on va référer là, aux besoins. Là.
C'est bien, parce que tu vois, même moi, je connaissais pas, puis je connaissais la Méridienne, mais je connaissais pas l'éventail là, du service qui était offert, fait que c'est vraiment cool de...
Je savais pas que la ligne téléphonique c'était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'sais, j'avais le numéro et tout ça, là, mais ça, c'est super, super pertinent. Je sais que dans la clientèle, il y a aussi les femmes immigrantes. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus là, de qu'est-ce que ça implique dans le fond? Là?
Oui, bien en fait, c'est sûr que il y a les femmes immigrantes, tu sais, c'est un éventail quand même assez grand. Là. Il y a les nouvelles arrivantes, par exemple, qui ne parlent pas la langue, qui ont peu de connaissances sur leurs droits ici au Québec, qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le mari plutôt que, tu sais, dans
les différences de culture.
Oui, c'est ça. Souvent, le mari, il a plus de connaissances puis ça passe plus par lui. Fait qu'elle peut se faire dire beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement vraies, fait que la connaissance de ses droits sont quand même inexistantes, je dirais. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Nous, on peut justement aller rencontrer ces femmes-là. On a accès à des interprètes. Nos services sont offerts en français, en anglais puis en espagnol. C'est sûr que quand même...
c'est vraiment...
C'est cool.
C'est ça. Ben, moi, je parle espagnol, puis on a aussi une autre coordonnatrice, Sabrina Minot, qui parle espagnol aussi. Puis on a plusieurs intervenantes qui parlent anglais. Donc, c'est ça. On peut rencontrer ces femmes-là, les informer sur leurs droits. On leur offre de l'hébergement, bien entendu. On va les accompagner dans leur démarche, comme Sabrina l'a dit plus tôt. Les démarches, ça peut être d'obtenir un statut si le statut n'est pas régularisé. Des fois, c'est des femmes qui sont avec un conjoint québécois qui sont venues ici, mais qui n'ont pas leur citoyenneté, qui se sont fait miroiter des promesses de parrainage qui n'ont pas abouti. Fait qu'on peut les aider là-dedans à régulariser leur statut. C'est ça, toutes les démarches d'aide sociale, trouver un appartement, des choses comme ça. Puis, pour les femmes immigrantes, mettons, qui ont déjà un statut, ben, tu sais, c'est les services un peu normaux. C'est juste qu'on va personnaliser notre approche, là, tu sais, pour répondre mieux à leurs besoins pour la culture. Parce que des fois, la compréhension de la violence conjugale, elle est vraiment différente selon la culture. Fait qu'on va vraiment offrir une approche, comme, culturelle, je dirais, multiculturelle pour, répondre mieux à leurs besoins.
C'est
Juste
vraiment intéressant.
il y a les lois aussi là, qui sont différentes là, dans différents pays.
Effectivement.
Fait que juste ça, c'est un apprentissage là, nécessairement.
Oui, puis tu sais, ça ramène à la notion de, tu sais, au final, le comment est-ce qu'on approche les choses dans une culture versus un autre. C'est pas les mêmes façons de faire, c'est pas nécessairement les mêmes référents non plus. Fait que c'est le fun de dire que tu sais, vous adaptez vraiment à la clientèle dans sa réalité et non juste dans la conformité de ce qui est ici au Québec, puis que de comment on doit agir selon les normes québécoises, mettons, versus tout le bagage, l'expérience, la femme, l'immigrante, c'est vraiment cool.
Combien de temps est-ce qu'une femme avec ou sans enfant peut rester à la Méridienne, à votre centre d'hébergement?
En fait, on a un chiffre papier, qu'on veut dire, c'est écrit papier, que c'est un 10 semaines. Donc, c'est
Quand
environ
même, là, c'est
un
un
3
bon.
mois. C'est environ un 3 mois. Là, je crois que vous le savez, il y a une pénurie de logements.
Non, aucun logement. Oui,
scoop! Scoop! Ce qui fait que les femmes vont rester beaucoup plus longtemps parce que nous, on ne se doit pas mettre une famille à la porte parce qu'ils n'ont pas de logement. C'est pas de leur faute, on s'entend.
C'est une réalité,
C'est une
là.
réalité. Donc, nous, ça fait que l'hébergement, on va souvent l'extensionner. Comme présentement, on a des femmes que ça fait depuis septembre qui sont en hébergement, là. Donc, tu sais, ça fait quand même un bon bout de temps, mais que pénurie de logement, statut d'immigration, etc., l'aide sociale, là, okay. Fait que, tu sais, ça fait que des fois, ça peut être plus long. Mais, somme toute, quand même, c'est un 10 semaines, mais des fois, ça peut être la femme va venir une journée. J'ai déjà vu des fois qu'il y avait 1 heure, finalement, elle se sent pas bien, elle repart. Ça peut être une semaine, un mois, tu sais, c'est quand même pas coulé dans le béton, c'est quand même propre à chaque femme aussi, propre à sa situation, le pourquoi qu'elle vient en hébergement. Est-ce qu'elle vient juste prendre un temps de répit, un temps de réfléchir, puis elle dit, ben moi, j'ai juste une semaine, je vais me reposer, un peu parler avec vous, puis après ça, je repars. T'sais, ça dépend vraiment du besoin. Est-ce qu'elle veut se séparer de son conjoint? Donc, c'est là que ça va avoir un impact là, sur la durée de l'hébergement.
C'est vraiment cool, c'est super flexible. Puis dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est axé sur le besoin de la femme, là. C'est pas dans une optique de répression, là. C'est vraiment comme, écoute, nous, on t'offre des services, puis on t'accompagne dans le choix que toi, tu désires aller vers. Puis,
En effet, nous, le RIP de la femme, le RIP de l'enfant, c'est à la base de nos interventions, à la base aussi de l'approche féministe. Donc, nous, c'est hyper important. Puis, on n'est jamais là pour dire, tu es obligé de faire
C'est
telle
ça.
chose. Les femmes qui vont venir tant en hébergement qu'en externe n'ont aucunement besoin d'avoir quitté leur conjoint. Ils peuvent encore être en relation, ils peuvent se questionner. La seule différence, s'ils sont encore en relation, c'est que ça va être important pour nous d'assurer une protection, de faire un plan de protection quand elle va le retourner le voir, quand elle va quitter l'hébergement. Pour nous, ça va être important de réfléchir à sa sécurité. De pas lui dire de le quitter, mais de quand même avoir en tête l'enjeu de sécurité. Donc, nous, on va jamais dire à la femme de faire quoi que ce soit, peu importe les choix qu'elle va faire. Nous, on le dit qu'on t'accompagne. On t'accompagne, on n'est pas là pour te juger. On veut pas que tu te justifies. Tu sais, pour nous, un objectif premier, c'est de déculpabiliser les femmes, les déresponsabiliser de leur vécu. Donc, pour nous, ça va être le bas de notre intervention, le pourquoi qu'on va jamais leur dire quoi faire. On est là vraiment pour les supporter dans leur choix, tout simplement, là.
Ben, puis parlons-en plus en détail, là. Tu en as parlé un petit peu, mais c'est quoi ça, la violence conjugale? C'est une grosse question, là, mais on peut, si vous pouvez nous décrire un petit peu, là, c'est quoi ça?
Mais
Qu'est-ce
juste
qu'on veut
avant d'aller là,
dire?
j'avais envie de rajouter
Vas-y,
quelque
vas-y.
chose à ce que Sabrina disait. Tu sais, tous nos services sont gratuits et confidentiels.
Ouais.
La seule condition, mettons, d'hébergement qu'on a, c'est que la personne doit s'investir dans un suivi. Le suivi femme, il est obligatoire. Donc, c'est la seule condition là, pour venir en hébergement chez nous. Donc, c'est ça que je voulais dire. Tous nos services sont gratuits. L'hébergement est gratuit, mais la nourriture aussi est gratuite. Il y a plein de choses
Crème.
qu'on offre, là, fait que ça peut être une bonne option quand les femmes ont l'impression que si elles quittent le conjoint, là, tu sais, il y aurait de la difficulté
Nouveau monétaire, là,
financièrement, tout
ouais.
ça, ben, tu sais, nous, on peut les aider justement à faire une demande d'aide sociale, tout ça, fait que ça faisait partie. Je voulais juste
Ah
rajouter.
oui, c'est
Ben oui,
parfait,
ben
c'est
c'est super
super.
pertinent, effectivement, là. Mais fait que je reviens à ma question, la grosse question, c'est quoi ça, la violence conjugale? dans vos mots, là, on s'entend.
Oui. Bien, en fait, la violence conjugale, souvent, c'est difficile un peu à déceler, puis c'est difficile à départager parce que, tu sais, on peut penser à une relation malsaine, à des conflits, à de la violence physique. Mais en fait, là, ce qui différencie vraiment la violence conjugale du reste, c'est le rapport de pouvoir entre les deux partenaires. Donc, dans une relation malsaine, ça se peut qu'il y ait de la violence, mais il y a pas, c'est pas toujours la même personne l'agresseur, c'est pas toujours la même personne la victime. Tandis que dans la violence conjugale, c'est vraiment toujours la même personne qui est l'agresseur, puis toujours la même personne qui est la victime. Puis, l'enjeu des conflits ou l'enjeu de ce qui fonctionne pas, là, c'est vraiment plus c'est le contrôle sur l'autre. C'est pas, tu sais, mettons qu'on oublie de mettre les poubelles au chemin. T'sais, l'enjeu, c'est pas les poubelles au chemin, c'est le contrôle.
Tu vas pas écouter, mettons.
Je te l'avais dit de le faire, puis tu l'as pas fait. Mm. Puis moi, tu sais, fait que ça va aller plus loin. Les répercussions aussi vont aller plus loin. Ça sera pas juste on va se chicaner par rapport à ça, puis on va pouvoir revenir après. T'sais, ça va exploser, puis après ça, on revient, on en reparle, puis on règle ça. Dans la violence conjugale, ça va peut-être traîner pendant des mois, on va se faire des reproches, je vais faire des commentaires sur ça dans des soupers de famille, je vais faire exprès pour envoyer des pics pour que la personne se sente mal, tu sais, je vais peut-être faire des pics à chaque semaine pour que la personne, au lieu de dire « Hey, oublie pas les poubelles », ça va être « Tu sais que c'est les poubelles, hein, faut encore que je te le rappelle, là, parce que tu les as pas mis », tu sais, c'est comme, ça va plus loin que juste comme un conflit ou... Fait que c'est vraiment un rapport inégalitaire entre les deux partenaires.
C'est vraiment la notion à retenir, c'est vraiment c'est une prise de pouvoir, une prise de contrôle sur l'autre.
Sur l'autre.
Puis qui va utiliser toute une gamme d'agressions. C'est sûr qu'il y a les agressions, tout ce qui est au niveau verbal, psychologique, physique, économique, sexuel. Donc, il va utiliser un type de violence dans le but de prendre du contrôle et du pouvoir sur l'autre. Puis souvent, nous, on va vraiment prendre le temps justement d'expliquer, par exemple, c'est quoi la violence conjugale, puis c'est quoi une chicane de couple. Parce que souvent, on va se dire, ben, on fait-tu juste se chicaner ou c'est plus que ça? Fait que, tu sais, c'est important justement de dire, ben, dans ma relation, est-ce qu'il y en a une personne qui est plus haute que l'autre? C'est qui a les comportements violents? Souvent, la personne qui va être la victime, elle va pas se sentir libre de s'exprimer. Elle va pas pouvoir dire son opinion. Elle va pas pouvoir vraiment s'expliquer. Puis elle va vivre toute une gamme de conséquences. Elle va pas avoir de liberté, justement, de prendre position, de s'exprimer. Et la relation sera toujours inégalitaire. Tandis que dans une chicane, la relation va toujours demeurer égalitaire. Oui, on peut hausser le ton. Oui, on peut même dire des choses qui vont dépasser notre façon de penser. Mais mon but ne va jamais être de prendre du pouvoir sur l'autre. Ne va jamais être vouloir de la contrôler, de lui faire peur, de l'intimider. Donc, c'est toujours de se rappeler que c'est une prise de contrôle de pouvoir et que ce n'est pas inconscient. Des fois, on va se le faire dire, mais il s'en rend pas trop compte. C'est pas voulu. Il a perdu le contrôle. C'est quelqu'un qui est très colérique. Mais il faut se rappeler que la seule unique personne qui est responsable de cette violence-là, c'est l'agresseur. Ouais. C'est cette personne-là qui va décider d'avoir ces comportements-là dans le but de prendre du contrôle et du pouvoir. Donc, c'est tout à fait conscient, cette prise de contrôle de pouvoir-là.
J'ai comme deux questions, là. Puis, parce que dans le fond, tu sais, j'imagine, je réfléchis, puis je suis comme, tu sais, quand on a une relation là, amoureuse, une nouvelle relation avec quelqu'un, ben, bon, on se met un peu toujours sur notre 36. Au début, c'est comme, tu sais, on se met beau, on se prépare, puis, fait que j'imagine que la violence conjugale, c'est un petit peu le même principe. Fait que ma question, c'est est-ce qu'on voit ça arriver ou ça se manifeste comment dans la relation? Puis, en même temps, je la jamais tout de suite pour pas l'oublier, mais est-ce qu'il y a une différence au niveau de la violence conjugale auprès des adultes? Versus auprès des adolescents, dans les manifestations, dans la façon que ça arrive ou dans votre expertise? Là.
Je vais répondre à ta première question. En fait, souvent, nous, on va dire à la femme, quand elle va sentir justement coupable, elle dit, ben voyons donc, j'aurais dû le voir venir, pourquoi je suis restée si longtemps? On va dire, mais toi, ton premier rendez-vous avec lui, là, quand tu es allée souper au restaurant, là, c'est-tu écrit dans sa face, je vais être violent avec toi dans X temps? Non, c'est que c'est pas écrit dans le visage, tu peux pas t'en rendre compte. Souvent aussi, moi, j'aime se dire que même moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ça, je pourrais aussi vivre une relation de violence conjugale, même si je connais ça sur le bout de mes doigts. La violence conjugale, c'est subtil, c'est sournois, on s'en rend pas compte dans les débuts, et c'est vrai. Et c'est pas parce que t'es niaiseuse, c'est pas parce que non, c'est que c'est très subtil et c'est voulu que ça soit comme ça. Puis qu'est-ce qu'on peut voir quand que les femmes vont davantage avoir des signes d'alarme, c'est quand que la relation va être plus acquise, si je peux dire. Donc, soit exemple qu'on va emménager ensemble, On va avoir un enfant ensemble. Donc, quand il va, on va sentir que la relation, justement, est plus... j'ai juste le mot acquise en tête, là, mais qui est plus
solide,
si je peux dire.
Engageante.
Mais plus engageante, okay. Mais souvent, c'est là qu'on va voir que la violence va augmenter. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas avant. C'est juste que des fois, elle va augmenter, elle va vraiment prendre un step de plus. Mais souvent, ça va commencer par la violence verbale, psychologique. Justement, au premier rendez-vous, la personne ne va pas tout de suite te frapper. Là. C'est sûr que tu ne vas pas un deuxième rendez-vous.
On ne se rappellera pas. Si je vous donne un point en face aujourd'hui, vous ne me rappellerez pas. Hein?
Le principe que, tu sais, on ne montre pas nos défauts. C'est pas même ça qui met beau. Là.
Exact.
Mais il va quand même avoir rapidement la violence verbale, la violence psychologique et de la jalousie. Un contrôle. Ça, au début, ça peut être vu comme « wow, il m'aime. Il veut prendre soin de moi. Il aime ça qu'on prenne du temps ensemble. » Mais exemple de se faire dire « ben, je veux pas que tu ailles voir tes amis. Je préférerais que tu restes avec moi ce soir. Crème, qu'est-ce que tu portes? Ça te fait pas bien. Tu devrais pas mettre ça. » Des commentaires sur l'image, sur le corps, des comportements contrôlants de justement au niveau des sorties, de qui tu vois, de ton choix d'études. Donc, des remises en question comme ça. Ça, c'est des formes de violence qu'on va voir dans les débuts, qui est vraiment par le contrôle. Puis que, justement, graduellement peut changer. Ouais. C'est important aussi de garder en tête qu'il n'y a aucune forme de violence qui est pire que l'autre. Mmh. Souvent, on va avoir en tête que la violence physique, c'est ça qui va nous marquer plus, hein, parce que ça va être très visible. Mmh. Des bleus, un bras cassé, un œil au beurre noir, c'est visible, c'est marquant. Mais pour nous, il n'y a aucune forme qui est pire que l'autre. Même s'il y en a une qui va laisser des traces physiques, pour nous, est aussi pire que la violence verbale, psychologique, qui va aussi laisser des traces qui sont non visibles. Va aussi laisser toute une gamme de conséquences qui est non visible aussi. Donc, c'est important de retenir que peu importe ce que tu vis en tant que forme de violence, c'est aussi grave l'une que l'autre. Parce que les femmes vont souvent nous dire « Mais moi, c'est pas si pire. Tu sais, j'ai pas ma place dans vos services. Moi, il m'a jamais frappé. C'est pas si pire que ça. C'est pas si grave. » Mais non, le fait qu'il t'ait dénigré pendant 5 ans, ça peut avoir complètement détruit ta confiance en toi, ton estime de toi, plein de conséquences que tu peux vivre pendant des années. Donc, pour nous, peu importe la forme, c'est aussi grave l'une que l'autre.
Ça ramène vraiment la notion de pouvoir. Là, c'est ça, tu sais. Si tu as des dénigres et que tu portes un signe de soi, ben là, tu es dans une position où justement ta santé mentale est plus fragile. Tu as moins envie, tu sais, ça y a pas de symptômes dépressifs. Tu peux avoir des choses qui sortent, j'imagine, à ce moment-là. Puis qu'effectivement, tu deviens en relation de pouvoir parce que tu n'as pas l'énergie, la force, tu as un autre, le problème qui surgit. Là.
Justement, comme c'est une histoire de pouvoir, ben, tu sais, tantôt Sabrina disait que c'est quand la relation devient un petit peu plus engageante qu'on voit le plus de signes. Ben, tu sais, plus que l'agresseur va sentir qu'il va perdre le contrôle sur sa victime, plus le contrôle va augmenter. Fait, quand la relation devient plus engageante, peut-être que justement la femme va sentir un petit peu plus libre, elle va sortir plus avec ses amis, peut-être que aussi, tu sais, il y a comme une partie où est-ce que, tu sais, comme quand on est en couple, là, on fait un peu comme ça. Puis, tu sais, au début de la relation, les deux cercles sont comme collés ensemble. Puis, plus que la relation avance, plus que, tu sais, le « nous », il prend moins de place, le « moi », il reprend sa place, si on peut dire ça comme ça. Mais quand le « moi » reprend sa place en violence conjugale, puis le « nous » prend moins de place, c'est là que la violence, justement, les signes, on va pouvoir les observer. Puis, c'est justement... c'est quand il y a un enfant qui arrive, justement, la femme va peut-être être plus portée, va donner plus d'attention à l'enfant, va être plus occupée. Puis c'est là que l'agresseur sent qu'il va perdre peut-être un peu de pouvoir sur sa victime. Puis c'est là que la violence va s'intensifier. T'sais, ça, c'est pas nécessairement... On va peut-être voir des formes de violence qu'on n'avait jamais vues auparavant ou les formes de violence qui étaient déjà là vont devenir encore plus intenses.
Ah, super, merci. Puis au niveau jeunesse, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment le même... Je sais pas, je peux pas atteindre le même schéma, mettons, qui se reproduit, c'est un peu différent.
C'est sûr que la dynamique de violence conjugale reste la même pour tout le monde. Tout à l'heure, on pourra prendre le temps d'expliquer le cycle de la violence conjugale. Le cycle reste le même, peu importe ton âge. Peu importe où tu es dans la vie, le cycle, c'est le cycle, tu vas le vivre. Il va être différent. Chaque cycle est différent, propre à la situation, propre à la personne. Mais la dynamique reste toujours la même. Au niveau de exemple plus qui est adolescent, qu'est-ce qu'on voit? C'est beaucoup de jalousie. C'est ça que, justement, les personnes vont nous dire, mais ils m'aiment, tu sais, fait ça parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils tiennent à moi. Donc, ils vont beaucoup justifier la violence par le fait que, justement, ils m'aiment. Puis c'est, donc, nous, on est beaucoup là à travailler, justement, que la jalousie, c'est pas une preuve d'amour. Au contraire, c'est du contrôle. C'est du contrôle. Donc, on va beaucoup voir le comportement, justement, de ce type-là au niveau de la jalousie. Mais au niveau de l'installation, vite comme ça.
Ben, moi, j'aurais tendance à dire que, tu sais, Tout va plus vite quand on est adolescent, là. Tu sais, je pense que quand on tombe en amour, c'est plus intense. Quand que
ouais, l'intensité, ouais.
C'est les premières fois. Fait que, tu sais, tout est plus intense. Fait que je pense que peut-être que ça s'installe un peu plus vite, mais tu sais, je te dirais que c'est aucunement scientifique ce que je dis, mais j'ai l'impression que tout est plus intense. Fait que
Ouais.
comme c'est plus intense, tu sais, souvent, tu sais, aussi, y a la maturité est peut-être moins là quand on est plus jeune. Fait que le, tu sais, les manifestations, puis tout ça, ils peuvent peut-être arriver plus rapidement. Tu sais, le sentiment de jalousie ou de, tu sais, d'avoir besoin de l'autre, tu sais, ça peut peut-être intensifier la
Ouais.
violence.
Mais ça fait sens parce qu'effectivement, on devient comme plus rapidement fusionnel, là, tu sais, si on
Oui,
devient
c'est
dans,
ça.
comme, oh
C'est
mon Dieu, c'est
exactement.
l'amour de ma vie, rapidement,
Ouais.
très, très intensifié, que...
Ouais. Puis qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est que de plus en plus, on banalise beaucoup la violence.
Oui.
Auprès des jeunes, vraiment une grosse banalisation qui fait que la reconnaissance pour ces jeunes-là, c'est très difficile parce que c'est banal de se faire pogner une fesse. C'est banal, ça, tout le monde fait
Ouais.
ça, de s'appeler de telle façon. Hein, c'est vraiment banalisé. Donc, c'est, moi, je suis pas victime de violence, c'est juste normal. C'est
Oui.
comme ça qu'on est censé s'aimer. C'est comme ça qu'on est censé être chum blonde.
Ouais.
Fait que de la reconnaissance, ce qui fait que c'est difficile, ce qui fait que de l'accès à nos services, les jeunes vont venir moins vers nos services. Parce que, tu sais, nous, on est étiquetés, violence conjugale. C'est un gros mot, ça fait peur, c'est intimidant. Donc, pour les jeunes, c'est pas aussi facile de venir vers nous
Non.
parce qu'ils veulent pas s'afficher. Tu sais, c'est quand même gros de dire, ben moi, je vis de la violence dans ma relation.
Ouais.
Quand tu es adolescente, là, c'est extrêmement difficile de le reconnaître. Puis après ça, de faire, ben là, je le reconnais, puis je fais quoi avec ça?
Ouais.
T'sais, je l'aime, mon chum. Je l'aime vraiment
Ouais.
beaucoup, là. Fait que je fais quoi avec ça? Fait que nous, c'est ça que ça qu'on est très contents d'être ici aujourd'hui pour pouvoir parler de nos services jeunesse, pour pouvoir expliquer un peu, puis que les jeunes n'hésitent pas à nous contacter. Parce que justement, on ne va jamais obliger à faire quoi que ce soit, mais on va être là pour t'accompagner, pour s'assurer que tu sois en sécurité, que tu te sentes respecté, que tu te sentes bien, parce que c'est important.
Est-ce qu'on peut nommer quelques exemples au niveau de l'adolescence? On dirait que j'en ai un qui m'a popé en tête, là, des exemples qui a trait à la violence conjugale dans une relation d'adolescent. Pense à, mettons, excusez-moi, là, je pense à, mettons, obligé à FaceTimer, t'sais, à une certaine heure à chaque jour. Puis que si ça se fait pas, ben bon, il y a une petite crise d'insécurité de comment t'étais où, qu'est-ce qui se passait, puis est-ce que ça pourrait entrer dans des genres de signes de contrôle là, où est-ce que on voit que la relation est pas égalitaire, là?
Mais oui, tout à fait. Avec les réseaux sociaux, il y a une grosse prise
Ouais, j'ai
de
l'impression qu'avec ça,
contrôle.
là, ouais.
Il y a vraiment une grosse prise de contrôle de je veux savoir t'es où, t'es avec qui.
Il y a des
Les
applications.
textos, les
Oui,
trucs,
Il y a des
oui.
applications aussi,
Pour
là,
localiser.
mettons avec iPhone, je sais qu'il est
Là.
localisé, ouais, savoir en tout temps où est l'autre personne, là, ça peut commencer jeune.
C'est obligatoire dans la relation qu'on active ça.
Exact.
C'est pas que je te fais pas confiance, mais j'ai le droit de savoir. Si on est chum
Ouais.
blonde, j'ai le droit de savoir t'es où, t'es
C'est
avec
ça.
qui. Donc ça, c'est une forme de violence qui est très présente de
Ouais.
l'harcèlement par texto.
Ouais.
Donc, tu sais, je te texte une fois, genre, t'es où, tu réponds pas, mais je t'harcèle. Tu sais, des 50 messages par jour, même plus, ça arrive là, de constamment t'appeler, t'appeler. Tu sais, ça, c'est une forme de violence, puis quelque chose qui est
Ça
quand
peut être
même.
des signes là,
Oui.
à repérer là.
Effectivement.
Snapchat aussi a une Snap Map là, t'sais,
Oui.
pour les plus jeunes là, genre juste le fait d'ouvrir l'application dans le fond, ça peut te piner à l'endroit où t'es à ce moment-là. Fait que nécessairement que c'est des choses qui peuvent être utilisées pour comme justement renforcer cette relation inégale là
C'est un
dans
couteau
un
à
couple.
double tranchant,
Ouais.
effectivement. Il y a un outil qui est super intéressant là, sur le site de SOS Violence Conjugale. C'est des textos, ça s'appelle C'est pas violent. C'est comme des textos. Puis là, il invite la personne qui est sur le site là, à justement répondre aux textos de comme son partenaire. C'est comme si
OK.
tu parlais avec ton partenaire, puis il y a des choix de réponse, puis là, tu peux répondre au texto, puis après ça, ça l'explique. Est-ce que voyons, la discussion, elle était violente ou pas violente? Puis après ça, elle explique pourquoi c'était violent, parce que c'est violent à chaque fois, là, finalement, mais je vous vends un punch, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir voir, tu sais, peut-être qu'il y a des discussions comme ça dans vos textos à vous,
Ben
là.
oui. C'est super, on va pouvoir mettre ce lien-là au montage là, pour que les gens y aient accès. Là.
Parce que des fois, justement, on peut penser que la violence conjugale, c'est vraiment c'est flagrant. Parce que socialement, on parle beaucoup de violence physique. Par exemple, les annonces, c'est beaucoup axé sur
Oui.
violence physique, qui fait que justement, tout ce qui est verbal, psychologique, c'est c'est pas autant parlé, donc c'est plus, encore plus difficile à reconnaître. Donc, c'est très subtil. Donc, dans ces messages textes, justement, on voit à quel point ça peut être subtil de dire, ben, que je veux pas que tu ailles voir ta chum de fille, je veux pas que tu ailles voir ta, elle avec elle au cinéma. Toute l'option, l'optique de contrôle, mais ça, c'est extrêmement subtil, mais dans les relations avec les adolescents, il y a beaucoup de ce contrôle-là que tu m'appartiens.
C'est bon ce que tu apportes, c'est-à-dire c'est une question de société, une question de que, comment que c'est perçu dans la société. Si je comprends aussi que c'est qu'une des solutions, dans le fond, c'est d'aller agir à ce niveau-là en prévention, d'aller expliquer peut-être un petit peu ce que c'est une relation saine, ce que c'est la violence conjugale, comment en tant que victime ou agresseur la repérer. Ou, puis ça m'amène à penser, est-ce que c'est quelque chose, mettons, moi je suis un partenaire là, jeunesse, puis je dis crime, justement, je remarque dans mes classes ou dans mon milieu que des fois c'est difficile, puis de plus en plus je vois des relations qui sont peut-être pas si saines que ça. Est-ce que c'est un volet que vous offrez de vous déplacer chez des partenaires ou d'aller agir en prévention là, auprès des de l'entourage des partenaires jeunesse?
Effectivement, on a fait des sensibilisations. En ce moment, on en a deux types, là. On en a un qu'on parle de l'équilibre dans les relations amoureuses et affectives. Fait que là, on va vraiment démystifier c'est quoi une relation toxique, c'est quoi une relation, de la violence amoureuse, relation saine. On parle de dépendance affective aussi. Fait qu'on va vraiment faire la différence un peu entre tout ça parce que des fois, c'est mélangeant. On va parler aussi de la communication, l'importance de la communication dans les relations, les limites, est-ce qu'on met des limites, est-ce qu'on peut en mettre en fait, puis un peu les drapeaux rouges, là, ce qu'on va parler plus tard. Puis l'autre, c'est vraiment sur la violence conjugale, c'est une mise en situation là, de Samuel et Mathilde, c'est un couple qui... où il y a de la violence conjugale, puis on invite les jeunes à se déplacer dans la classe pour justement, ils vont, exemple, au cinéma, puis là, il se passe quelque chose au cinéma, là, ils doivent se rendre à la salle des casiers, puis là, après ça, ils doivent réfléchir là, sur qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis, je ne sais pas si tu veux en parler, Sabrina, mais justement, l'année prochaine, on avait le projet là, d'inviter une policière communautaire à venir donner l'atelier avec nous pour parler justement de qu'est-ce qui est criminel dans la violence conjugale.
Donc, ça, c'est vraiment à partir de l'année prochaine qu'on va faire ça. Donc, on a vraiment un volet qu'on va donner des ateliers aux jeunes. Donc, ça, c'est tout professionnel d'un milieu qui a des jeunes dans leur clientèle qui peuvent nous appeler, puis que nous, on peut animer des groupes, faire l'intervention de groupe, ateliers auprès de la clientèle jeunesse, que ça soit au primaire, au secondaire, au niveau de l'âge, il n'y a pas de problème. On a tout le volet aussi population générale qu'on peut offrir vraiment des formations ou de l'information en violence conjugale et le volet professionnel. Que justement, un professionnel qui veut nous faire venir dans son équipe, qui veut nous inviter auprès de sa clientèle. Donc, nous, on va offrir tant de niveaux de sensibilisation que proprement de formation en violence conjugale pour, par exemple, reconnaître la violence conjugale, être capable de la dépister, être capable de référencer après. Donc, c'est vraiment des gammes de services qu'on va offrir.
Ah ben oui, puis nous, on avait justement fait affaire, je pense, l'année passée ou l'un an ou deux, avec vous, puis il y avait une intervenante qui s'était déplacée là, pour en tant qu'équipe, parce que nous, dans la santé mentale, on en voit, mais on n'est pas les experts. Puis justement, OK, comment je fais pour emmener la personne, mettons, que j'ai l'impression qu'il vit la violence conjugale, aller vers un service, tranquillement avoir une réflexion vers, sans la brimer, sans la pousser, puis tout en travaillant, nous, notre volet, le lien et la santé mentale. Fait, puis on avait trouvé ça super pertinent. Fait que j'invite les partenaires là, à faire
Oui,
avec vos services. Là.
oui.
On voulait y revenir. Ça, je pense que ça peut être le moment. Le cycle de la violence conjugale, je trouve ça super que on ait été capable de recréer un peu les phases, les différentes phases de la violence conjugale. Fait, qu'est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu à quoi ça ressemble? Je trouve que ça aide vraiment à le repérer dans le fond.
Qu'est-ce qu'on fait souvent pour l'expliquer? C'est qu'il y a une intervenante qui fait la portion agresseur, une personne qui fait l'autre qui fait la victime. Fait que si tu veux, Marlène, on pourrait faire ça.
Oui, on pourrait faire ça.
Donc, je te laisse faire l'agresseur.
OK, c'est bon. Je vais être la méchante aujourd'hui. Fait que, en fait, la première étape là, du cycle, c'est les tensions. Fait que dans la phase de tension, l'agresseur va, ça, t'sais, va peut-être ignorer la victime intentionnellement. T'sais, il va peut-être être très irritable. C'est beaucoup dans les non-dits, je dirais, les
Créer des
tensions. Oui, de
silences,
créer des silences
bouder.
malaisants ou des silences lourds, boudés, effectivement, c'est des bons exemples. Tu sais, tout ce que tout ce qui se dit pas, mais qui se ressent, là, c'est beaucoup dans la phase des tensions que ça se passe. Fait que, d'être impassible, mais tu sais, on le sent qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas capable de mettre le doigt, c'est sur quoi. Puis quand on pose la question, ben, l'agresseur va répondre que c'est correct, ben, tu sais, qu'il n'y a rien, mais on
Dire.
sent qu'il y a quelque chose.
T'es tout correct? T'es-tu de bonne humeur aujourd'hui? Oh oui,
Ouais, c'est ça.
es-tu de mauvaise humeur? Non.
Mais il est bête, il est
Ouais,
irritable.
c'est ça.
Ouais, effectivement.
Nier un peu aussi le.
Puis à ce moment-là, la victime, elle va vraiment sentir qu'elle marche sur des œufs. Donc, elle sent qu'il y a quelque chose. Elle sent qu'il va arriver quelque chose. Elle sait pas quand. Puis à comment, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous rappelle qu'elle n'a pas le contrôle sur cette dynamique-là. Donc, elle, son but, ça va être de tout faire pour pas que le cycle continue. Donc, elle va tout faire pour que les enfants soient calmes. Elle va tout faire pour que la vaisselle soit faite, le ménage. Vraiment, tout mettre en place pour éviter que ça explose. Mais elle n'a pas le contrôle. Donc, peu importe qu'est-ce qu'elle va faire, il va avoir une explosion qui est la deuxième phase, qui est l'agression.
Ouais. Fait que lors de l'agression, l'agresseur, il va utiliser toutes les formes de violence ou juste une, ça dépend, pour prendre du contrôle sur sa victime. Fait que ça peut être, par exemple, insulté, blâmé, ça peut être de la violence physique. Mais quand on parle de violence physique, là, c'est pas juste t'sais, serrer le bras ou donner un coup de poing, là. Ça peut être lancer des objets, même si c'est pas dirigé sur la personne, ça menace l'intégrité physique de la personne. Donc, c'est de la violence physique, là. Fait que lancer des objets, tirer les cheveux, mordre, tout ça, c'est des exemples de violence physique. Ça peut être de la violence financière. Fait que ça peut être d'obliger quelqu'un à donner son argent ou l'empêcher d'avoir accès à de l'argent. Ça peut être de la violence sexuelle, fait que dénigrer son physique, par exemple, d'obliger à avoir une relation, à participer ou à regarder, tu sais. Un acte sexuel, fait que tu de regarder de la pornographie si ça te tente pas, puis que ton conjoint ou ta conjointe t'oublie, ça c'est de la violence sexuelle. Fait que c'est ça. Fait, comme j'ai dit, la violence verbale puis psychologique, là, ça peut être manipulé, ça peut être parler sur un ton agressif, dénigrer, insulter.
Et à ce moment-là, la victime va réagir de façon différente. Chaque victime réagit de façon différente dans le but de se protéger. Donc, soit qu'elle va figer, elle va fuir, elle va pleurer. Ça se peut aussi qu'elle ait des comportements qu'on va dire violents. Donc, qu'elle va crier, qu'elle va le dénigrer, qu'elle va le pousser, qu'elle va le frapper. Puis nous, à ce moment-là, c'est très important pour nous d'expliquer à la victime que ses comportements sont complètement différents que ceux de l'agresseur. Parce que souvent, les parents vont dire, mais moi, je suis pareil comme lui, je suis autant violente. Il me crie après, je le crie après. Il va me pousser, ben je vais me défendre. Fait que je suis aussi pire que lui, moi aussi, je suis violente. Mais c'est de la violence qui est complètement différente, qui est vraiment réactionnelle, dans le but de reprendre du pouvoir et du contrôle sur moi, sur mon corps, la situation. Donc, c'est dans le but de me défendre, de vraiment me protéger. Donc, oui, ça reste un comportement violent, par exemple, de crier, de frapper. Est-ce que la violence est acceptable? Idéalement, non, on s'entend, la violence, c'est inacceptable. Mais ça se peut que dans cette situation-là, la seule chose qu'elle a cru, qu'elle pouvait faire pour se protéger, c'était ça. Et c'est correct. T'sais. Des fois, c'est vraiment dans l'esprit que même de survie. Donc, c'est important pour nous de le rappeler que c'est des comportements qui sont très différents, puis c'est important là, de faire la différence, là.
La différence aussi par rapport à la violence réactionnelle, c'est que le but, c'est de reprendre du pouvoir sur soi-même parce que l'autre tente de prendre le pouvoir sur nous, fait on essaie de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes et non sur l'autre. Tandis que la violence instrumentale, qui est la violence conjugale, le but, c'est de prendre le pouvoir sur l'autre. Puis aussi, la victime va se sentir coupable d'avoir eu recours à la violence, tandis que l'agresseur, lui, se sent légitime d'avoir eu recours à la violence. C'est ça la grosse différence.
Et la troisième phase, c'est la justification.
Ouais. Fait que là, l'agresseur, il va utiliser dans cette phase-là toutes les justifications possibles qui sont à l'extérieur de lui-même pour expliquer son comportement. Fait que ça sera jamais de sa faute à lui. Alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas, mais parce que la seule personne qui est responsable de la violence qu'il commet, c'est l'agresseur, comme Sabrina l'a dit tantôt. Donc, c'est ça. Ça pourrait être, j'ai eu une enfance difficile, c'est à cause de l'alcool, j'avais consommé, j'avais bu. Ça pourrait être, j'ai eu une mauvaise journée au travail. C'est de ta faute à toi. Tu sais, Sabrina, tu le sais, c'est quoi mes déclencheurs, puis tu fais toujours exprès pour me faire pogner les nerfs. Donc, ça, c'est une justification qui peut être donnée. Donc, c'est ça, c'est tout ce qui est à l'extérieur qui va venir faire douter la victime, justement.
Est-ce que ça peut être, c'est à cause de, c'est ça, c'est à cause de toi, ou si tu as dit ça, tu as fait ça,
Oui.
c'est ça, quand on parle de, tu connais
Ouais.
mes, ouais, ok.
Souvent, qu'est-ce qu'on voit, exemple, des exemples de justification, souvent, c'est associé à la femme elle-même, aux
Ouais.
enfants. Exemple, les enfants étaient bruyants, les enfants avaient des jouets partout. Au niveau de les discuter, exemple, à l'enfance. Tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça. Tu sais, mon père était violent, donc, tu sais, mon enfance, c'était pas facile. Tout ce qui est associé à les stresseurs financiers,
Oui, aussi,
la
j'imagine.
perte d'un emploi, tout ce qui est associé justement à l'emploi, les stresseurs reliés à tout ça, tout ce qui est au niveau aussi de la santé mentale. Tu le sais bien, moi, je suis bipolaire, fait que des fois, ça m'arrive, ou tu sais, qu'ils vont vraiment utiliser un diagnostic quelconque au niveau de la santé mentale. Donc, souvent, c'est les types de justifications qui vont être utilisées, là.
Alors que c'est pas tout le monde qui a un problème de santé mentale qui est violent, là, ça
C'est,
serait
c'est,
ouais.
en fait, nous, c'est ça qu'on dit
Mais
à
non,
la femme.
c'est exactement.
C'est de ça qu'on dit à la femme qu'il y a plein de personnes, exemple, qui vont avoir des problèmes de consommation, qui ne vont pas être
C'est ça.
violents. Plein de personnes qui ont un problème de santé mentale, qui sont peu violents. Donc, toutes les justifications, il y a plein de personnes qui cadrent dans ça et qui ne sont pas violents. Donc, il n'y a aucune justification qui est valide.
C'est relié à la personne elle-même.
Tout à fait. Puis
Exactement.
à ce moment-là, la victime, justement, elle va douter, elle va se remettre en question, puis ultimement, elle va être en accord avec les justifications de l'agression. Donc, elle va dire, ben, il a raison. La prochaine fois, je vais faire attention, je vais dire aux enfants de se calmer. La prochaine fois, le souper il va être prêt quand il va arriver. Donc, elle va vraiment être en accord, puis elle va dire, ben, il a raison. C'est vrai que c'est ma faute, c'est à moi de faire attention, c'est à moi de encore tout faire pour pas que ça arrive, là.
Elle va porter le poids de la violence sur ses épaules à elle, finalement. Elle va avoir l'impression que peut-être qu'elle le mérite, ou que c'est elle qui a déclenché ça, que c'est de sa faute, finalement.
Et la dernière phase, qui est la lune de miel.
Oui, c'est ça. Ça, c'est la partie où est-ce que c'est différent dans toutes les relations, là. Donc, il y en a des fois qui vont moins se reconnaître dans cette phase-là. Je dirais que c'est une trêve de violence, mais. Tu sais, y a des manifestations qui peuvent être vraiment très marquées, là, dans certains couples. Par exemple, l'homme, il va acheter des fleurs, va essayer de se faire pardonner. C'est la partie où est-ce qu'il va tenter, là, que la victime reste dans la relation. Fait que il va peut-être préparé à souper. Tu sais, il y avait une publicité, justement, à la radio qui jouait, là, qu'on entendait, là, et ça disait, mon amour, ce soir, j'ai préparé ton repas préféré, parce que je t'ai confisqué ton cellulaire. Tu sais, ça parle du cycle de la violence, cette publicité-là. Puis c'est ça, fait que ça peut être aussi subtil de, je te prépare ton repas préféré pour continuer, justement, à confisquer ton cellulaire, à regarder tes messages, à te défendre de sortir avec tes amis. Donc, c'est ça. Il y a des lunes de miel qui peuvent être vraiment très intenses, très marquées, puis d'autres où ça va juste être une trêve de la violence. Puis quand le cycle perdure depuis plusieurs années, des fois, cette phase-là va complètement disparaître, puis on va aller plus dans tension, explosion, justification, tension. T'sais, les tensions vont recommencer directement. Donc.
Et à ce niveau-là, la lune de miel, mais la victime, c'est sûr qu'elle va être mélangée. Elle va dire, ben, je retrouve l'homme à qui je suis tombée amoureuse. Puis elle va croire que, tu sais, justement, exemple, qu'il se met à pleurer, je vais aller chercher de l'aide, je vais arrêter, je te promets. Ben, elle va le croire, puis elle va vouloir lui laisser une autre chance. Donc, ça va vraiment venir la chercher, la questionner, la faire continuer à la faire douter, la faire remettre en question. Et la majorité du temps, en effet, ben, elle va laisser une chance, puis le cycle, ben, il va toujours recommencer. Et ce cycle-là, elle n'aura jamais le contrôle. Et nous, les femmes, surtout au niveau de l'hébergement, vont souvent venir avant l'agression, donc entre l'attention à l'agression ou après l'agression. Donc, il y a eu un comportement violent et je décide de quitter ou quelqu'un m'aide là, à quitter. Là. Donc, en résumé, le cycle, c'est ça.
Oui, mais c'était
Mais
vraiment
c'était
bien
parfait.
décrit, c'est ça. Je pense qu'on a assez. En tout cas, ça permet de bien comprendre vraiment les manifestations. Puis.
Oui, puis au niveau de vos services jeunesse, on en a parlé un petit peu. Est-ce que vous voulez développer un peu plus, t'sais, sur si, mettons, il y a des jeunes, adolescents, ou bien aussi les services offerts aux enfants qui sont victimes de violences conjugales à cause de la dynamique familiale? Qu'est-ce que concrètement vous pouvez leur offrir à ces jeunes-là qui sont ici dans l'AMRC des sources, là?
Donc, j'allais au niveau adolescent. Donc, pour les jeunes filles qui sont victimes dans leur relation à elles, ben, en fait, nous, on peut offrir vraiment un suivi à l'externe que nous, on appelle, qu'on va se déplacer, que ce soit dans un organisme communautaire qu'elle fréquente déjà, que ce soit son école. Donc, on va se déplacer dans un milieu qui répond à ses besoins puis qu'elle est bien dans ça pour offrir un suivi. Encore une fois, le suivi, c'est selon le rythme de la personne. Donc, c'est aucunement obligatoire, c'est volontaire. Donc, ça peut dire, ben moi, je vais te voir une fois puis c'est que ça. Mais ça pourrait être 10 fois comme ça pourrait être 15 fois. Donc, c'est vraiment selon le rythme de la personne, on peut se déplacer, que ce soit une fois par semaine, une fois 2 semaines. Les rencontres, souvent, vont être d'environ 1 heure. Mais encore une fois, si pour la jeune, c'est une demi-heure, c'est suffisant. Ben, c'est une demi-heure. Donc, on va vraiment se déplacer ici dans MRC, des sources, principalement dans la Val des Sources pour les écoles, pour rencontrer là, les jeunes filles qui sont victimes dans leurs relations, pour les jeunes qui sont victimes dans leur famille, tant les filles que les garçons. Puis c'est le même principe qu'on peut se déplacer dans leur milieu. Quand tu as 14 ans et plus, tu n'as pas besoin de la permission de tes parents. Donc, on peut venir les rencontrer sans problème là, dans leur milieu. La chose, c'est que nous, on ne peut pas faire de rencontre à domicile. Donc, nous, c'est vraiment souvent école, organisme communautaire, CLSC, qu'on peut se déplacer. L'écoute téléphonique, ça, comme on l'a mentionné. Par rapport aux jeunes, ils peuvent aussi nous écrire sur Facebook, sur Instagram. Ils peuvent aussi, on peut donner un numéro de téléphone qu'ils peuvent aussi nous texter. Donc, il y a aussi ça qu'on peut offrir.
On parlait de confidentialité tantôt, puis j'aimerais ça revenir sur ça parce que, en tout cas, j'imagine que ça doit peut-être être un frein de dire, mais tu sais, si je vais consulter, puis que moi, tu me le sais, la violence va peut-être augmenter. Ou y a-t-il des mesures, là, tu sais, par exemple, puis de je sais pas, moi, on peut te rencontrer dans un autre endroit totalement différent, s'assurer que le conjoint il est pas, tu sais, parce que c'est à l'école, mettons, puis que le conjoint est présent à l'école, puis qu'il voit sa blonde partir, ou tu sais.
Oui, et en fait, nous, on est très flexible. Pour nous, la sécurité, c'est primordial. Donc, nous, il n'y a aucun problème. Nous, on va souvent s'adapter. Donc, ça pourrait être très bien être dans un parc. Ça pourrait être très bien au Subway. Selon l'évaluation de sa sécurité, voir sa situation, nous, on pourrait lui proposer des options. Elle nous propose des options. Puis nous, on est très flexible par rapport à ça, là.
Fait que là, autant la femme que l'adolescente qui se questionne puis qui a un peu peur de ça, tu sais, il y a pas de raison, si je peux dire, là, d'avoir pensé que vous êtes flexible, puis vous pouvez accommoder justement pour être sûr qu'il n'y a pas de danger pour elle, puis que ça ne sera pas, puis que c'est ça.
Je vais te laisser expliquer au niveau enfant plus jeune.
Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que pour les enfants plus jeunes, souvent, c'est en hébergement que ça se passe. Tu sais, en hébergement, dans le fond, on va faire un suivi la durée de l'hébergement. Puis après ça, on peut continuer à offrir un service externe si elle reste dans la région. Parce que là, tu sais, si ça va à Montréal, par exemple, ou en Ontario, on continuera pas. Mais pour le post-hébergement, on peut continuer un suivi externe qu'on va se déplacer justement à l'école. Pour les enfants plus jeunes, c'est un petit peu plus difficile parce que là, ça prend vraiment l'autorisation des parents. Fait qu'on fait vraiment ça à l'école. Puis on peut avoir aussi une demande de suivi externe pour un enfant qui n'est pas venu en hébergement. Par contre, tu sais, c'est sûr que si la femme est encore avec le papa de cet enfant-là, puis qu'ils habitent encore ensemble, nous, on préconise, on suggère de ne pas faire de suivi avec nous parce que tu sais, l'enfant est encore dans le cycle, on ne veut pas le mélanger, on ne veut pas créer un conflit de loyauté non plus, puisqu'il est encore en contact avec l'agresseur, là. Donc, c'est vraiment plus quand l'enfant est pas. Il n'est plus en contact avec l'agresseur qu'on va offrir un service pour les enfants plus jeunes.
Puis au niveau de l'intervention avec les enfants, ça ressemble à quoi? T'sais, parce que j'ai l'impression que les gens se poseraient la question de t'sais, sont jeunes, c'est un concept compliqué. T'sais, que ça ressemble à quoi, là, grosso modo, de tes interventions avec eux?
Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec les enfants, ça dépend de leur âge. T'sais, c'est sûr que quand ils lisent et ils écrivent, là, on a beaucoup de possibilités. T'sais, on peut aller travailler l'estime de soi, on va aller travailler les peurs, par exemple, la compréhension de la violence, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Pour des enfants, je pense que qui ont grandi dans un contexte de violence conjugale, je pense que c'est vraiment difficile de partager. On le sait, là, que c'est pas correct de frapper, sauf qu'on voit quand même exemple des comportements qui sont de la violence physique ou psychologique dans la maison, par exemple. Fait que, tu sais, les enfants, pour eux, c'est difficile de faire la part des choses. Fait que c'est un peu sur ça qu'on peut aller travailler pour essayer de voir, tu sais, c'est quoi qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable. Donc, c'est ça. Puis, avec des enfants plus jeunes, on peut jouer avec des jeux de rôle, on peut y aller avec des marionnettes. Tu sais, tantôt, je faisais des blagues sur les Barbies. Tu sais, on peut y aller comme ça. Ça l'apprend beaucoup par modeling aussi, les enfants. Donc, ça peut être des façons de montrer l'exemple, par exemple, en faisant des jeux de rôle.
Super intéressant.
Vraiment.
On achève, là, je regarde l'heure, là. C'est quoi, dans votre quotidien, tu sais, vous travaillez directement avec ces gens-là, ces victimes-là, ces femmes-là. C'est quoi l'impact de la violence conjugale sur leur santé mentale que vous voyez au quotidien? T'en as parlé un petit peu aussi au niveau jeunesse, les jeunes, la confiance en soi. Fait que, c'est quoi cet impact-là là, que ça a?
Alors, on va avoir beaucoup d'anxiété, ça vraiment de plus en plus, tant au niveau là, des femmes que des enfants, que des adolescents, au niveau de l'anxiété, ça c'est très très présent, à une importance assez, la majorité là, vont être, avoir être anxieux, anxieuse, donc c'est vraiment très très présent, tout ce qui est au niveau de comportement, sont dépressifs, là. Ça aussi c'est quelque chose
Symptômes
qu'on, oui c'est
dépressifs.
ça là, qu'on va voir quand même aussi là, beaucoup.
Les idées suicidaires aussi, tant chez les femmes que chez les enfants, on en voit de ça. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est très anxiogène là, de vivre dans un climat de tension puis d'explosion, tout ça. Fait que beaucoup d'insécurité, on voit un impact beaucoup sur l'estime de soi, la confiance en soi, avoir l'impression que on est, tu sais, qu'on mérite cette violence-là. Fait que si on a cette impression-là qu'on mérite pas mieux que ça, ben on a peut-être l'impression aussi qu'on n'est pas capable de rien faire, qu'on n'est pas capable de réussir, qu'on n'est pas capable de quitter peut-être ce milieu-là. Donc ça prend beaucoup de place, je pense, de sentir qu'on mérite d'être aidé, qu'on mérite de se sortir de ça, qu'on mérite mieux que ça. Je pense que ça prend beaucoup de place aussi.
Puis on voit aussi, bien sûr, là, des troubles du sommeil,
Oui,
des troubles alimentaires. Oui,
d'avoir un impact au niveau social aussi, là, tu sais, d'après certaines années, mettons, d'avoir vécu ça, d'être éloigné des fois de notre cercle d'amis qui était un noyau, puis on s'éloigne. Tu sais, il y a ça aussi, hein, dans la violence
une
conjugale.
des conséquences, dans les premières, c'est l'isolement, là,
Perdre
dans le
un peu,
fond,
ouais.
l'agresseur veut isoler la victime, donc c'est sûr qu'ils vont perdre leur réseau d'amis, de famille. Donc oui, l'isolement, là, c'est très difficile. Et en la suite, d'aller vers les autres, de même penser à avoir une future relation, c'est impossible. D'aller vraiment, de refaire son cercle, de sortir de la maison, d'aller vers les autres, des nouveaux loisirs, ça aussi, c'est quelque chose qui va être plus difficile.
Et rapidement, en tant que proche, quels sont les signes qu'on pourrait essayer de repérer? On a parlé justement de peut-être notre amie à répondre moins présente à des soupers d'amis. Tu sais, ce genre de signes-là, là, c'est comment qu'on peut les repérer, là?
Mais moi, j'ai envie de dire que faut être très nuancé là-dedans parce qu'il n'y a pas rien de canné. T'sais, il y
Ouais,
a
c'est
des...
ça qui est complexe, en
Oui,
fait,
c'est
là.
ça. Il y a des personnes qui peuvent être bien et consentantes dans des choses que nous, on ne le serait pas. Fait que pour nous, ça a l'air pas normal, alors que pour eux autres, ça peut l'être. Fait que moi, je dirais qu'un des plus gros signes, ce serait la modification de quelque chose. D'une habitude ou quelque chose. Par exemple, moi, je travaille avec une collègue dans un bureau, puis je sais pas, moi, elle s'habille toujours avec des cols roulés, mais avant, elle n'avait pas, tu sais, elle s'habillait comme peut-être un petit peu plus moulant, un petit peu plus sexy, par exemple. Ça faisait partie de ses habitudes. Puis là, on voit son corps, il est toujours couvert, par exemple. Elle apporte des vêtements peut-être moins moulants. Peut-être qu'avant, elle sortait avec nous, elle allait faire des soupers, tu sais, on allait faire un petit 5 à 7 après le travail, par exemple, puis là, elle le fait plus. Peut-être qu'elle a plus souvent des appels, plus souvent des textos qu'avant, par exemple. Tu sais, ça peut être des indices. Là, tu sais, j'invente un peu en vous disant, mais c'est plus la modification des. Quand on voit quelqu'un qu'on connaît, qu'on a l'impression qu'elle a changé. C'est plus dans cette, tu sais, quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, puis là, peut-être qu'il l'est moins, ou quelqu'un, tu sais, qui parle beaucoup, 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 puis qui parle de moins en moins, qui est plus dans son coin, tu sais, on voit une modification qui est quand même assez marquée d'un comportement. C'est là qu'on peut se poser des questions.
Un petit peu ça, les éléments là, de la santé mentale qu'on parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui, depuis l'arrivée de la nouvelle relation, est plus anxieux, mange moins, plus symptômes dépressifs, ces choses-là, là.
À ce moment-là, ça va être important d'écouter la personne, de ne pas la juger, de ne pas la responsabiliser, de ne pas la faire sentir coupable, de ne pas lui dire, mais crime, laisse-le, c'est épouvantable, mais la victime, c'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre, de le laisser. T'sais. C'est vraiment de l'écouter, puis pas la juger dans son vécu, puis de si on est capable, c'est de la référer, puis puis de l'accompagner vers ce référencement. Tu sais, ah, je connais telle ressource ou telle personne qui travaille là, est-ce que tu veux qu'on appelle ensemble? Puis que si la personne ne veut pas, mais de ne pas l'obliger, de ne pas non plus la faire sentir coupable qu'elle ne veut pas. Donc, à la base, c'est vraiment d'être une personne présente, puis peu importe. Peu importe dans le sens que souvent, on va voir justement que le réseau va s'éloigner parce qu'ils sont tannés. Ils sont tannés. Ça fait plusieurs fois qu'ils disent, puis elle n'écoute pas. Mais c'est de rester, d'être toujours disponible quand la victime va être rendue là, quand elle va être disponible à aller chercher de l'aide ou à quitter la relation. Donc, c'est d'être présente, que ça soit de l'appeler une fois de temps en temps pour s'assurer qu'elle aille bien, de lui proposer des cafés. Même si elle ne veut pas, elle ne vient pas, mais au moins, elle sait que tu es là. Mm-hmm. C'est de toujours aussi de justement responsabiliser l'agresseur, mais sans parler de contre lui. Mm-hmm. Donc, pas le dénigrer, mais de parler contre les comportements violents. Donc, qu'est-ce que tu vis, c'est pas normal. Ce comportement-là, c'est pas correct, c'est de la violence. Pas commencer à crier après le gars, puis non, ça, c'est pas ça qu'elle a besoin. Mm-hmm. Mais somme toute, pour nommer les vraies choses, que la violence, c'est inacceptable, tu mérites pas ça, c'est pas de ta faute. Si tu veux, je suis là. Et d'y aller dans des attitudes plus positives, mm-hmm, comme ça. Là.
Puis il y aurait peut-être deux pièges à éviter qui sont importants, je dirais, de s'interposer. Fait que si on est témoin ou on a l'impression qu'il y a de la violence conjugale, puis qu'on s'interpose, on confronte l'agresseur c'est pas une bonne façon de faire parce que, comme je disais tantôt, c'est une dynamique de contrôle. Fait que si nous, on confronte l'agresseur, l'agresseur va se sentir démasqué, va sentir qu'il perd peut-être son contrôle sur la victime, puis ça pourrait intensifier la violence. Fait que ça, c'est très important de faire attention si on est témoin de tout ça. On peut appeler la police si c'est vraiment une situation là qui aurait besoin qu'on arrête la situation. Bien, on peut appeler la police, ça c'est bien entendu, mais si on soupçonne, on n'est pas certain, bien, on peut peut-être approcher la victime là, quand elle est seule, d'essayer d'y aller en douceur, comme Sabrina disait. Puis l'autre piège à éviter aussi, c'est de peut-être prendre la victime en charge parce que, comme on dit, elle est dans une relation de contrôle. Fait que si on décide pour elle, on fait des choix pour elle, on l'aide pas. Là, on va créer une autre dynamique qui est peut-être semblable, même si nos intentions sont bonnes. Donc, c'est vraiment important là, de suivre le rythme de la personne, comme Sabrina l'a dit, puis d'y aller en douceur, puis de signifier qu'on est présent, qu'on est à l'écoute, qu'on ne juge pas sa situation.
Super, merci.
Super. Ben, je pense que on a fait le tour. Vous avez très bien répondu à nos questions. Avez-vous des projets qui s'en viennent bientôt pour la Méridienne, des trucs que vous voulez mentionner, qu'on n'a pas parlé encore par rapport à vos services et tout ça, là? C'est le moment.
C'est le moment. Ouais. C'est le moment. On ne peut pas en parler beaucoup, mais je peux quand même en glisser un petit mot. Un petit punch. Mais je ne peux pas aller de fond en comble. Mais prochainement, je ne peux pas vous dire quand non plus, mais prochainement, dans la peut-être prochaine année, 2 ans maximum, on va avoir une maison de deuxième étape. Maison deuxième étape, c'est vraiment après la première étape, qui est notre maison d'hébergement, qui est des logements locatifs qui sont sécurisés. Donc, on va avoir 8 logements où que les femmes, que ce n'est pas possible pour elles de retourner encore dans un logement, par exemple, pour une question de sécurité, pourraient venir dans notre logement, signer un bail comme un logement normal, mais c'est une adresse confidentielle qui a un niveau de
sécurité. C'est super, ça.
Vraiment cool pour elles. Mm-hmm. Tu parlais tantôt, justement, effectivement, de la femme qui veut sortir de son milieu, mais qui n'a pas accès au logement aussi. Mm-hmm. Là. C'est vraiment une belle réponse, puis d'autant plus c'est sécurisé, ça permet une belle transition là, sans crainte vers un retour à la vie.
C'est très cool. Est-ce qu'il y avait d'autres choses?
En gros, c'est le plus gros
projet.
Ben, c'est un vraiment beau projet, je pense.
Le plus gros.
Ouais. Ouais. On a bien hâte de voir la réalisation de vie.
Ben, merci beaucoup. Puis, on peut aller sur votre site web qui est
lameridienne.ca.
Voulez-vous juste nous rappeler le numéro de téléphone?
Oui, 819-877-3050.
Super. Yes, merci. Moi, on va pouvoir le mettre aussi écrit là, dans les informations. Là.
On met toujours là, puis ça c'est important parce que pour les gens qui sont à l'écoute là, puis qui se questionnent sur leur relation ou sur la relation d'un proche, là, on va mettre toute l'information nécessaire là, pour vous rejoindre. C'est la situation qui est vraiment plus urgente là, dans l'immédiat, 811 option 2 pour une aide psychosociale ou comme l'a bien nommé la
Il
police
faut de la
811,
sécurité, de
là,
la
c'est une
police.
question de sécurité qui est en jeu. Puis c'est ça. Fait que merci d'avoir vraiment
Merci
participé.
beaucoup.
Super d'avoir
Merci à
initié vos
vous.
services.
Merci,
Bonne
c'est très
journée.
gentil.
Salut.
Merci.
Pour réaliser un projet comme celui-ci, ça prend beaucoup plus que deux intervenants motivés. Ce projet a donc été réalisé sous la supervision de Marie-Michèle Grimard, de qui l'idée est née, et de Sylvie Kawaja, notre directrice, qui embarque dans les projets incroyables de ses intervenants. Merci à Enzo Marceau, spécialiste en aiguillage, captation audiovisuelle et en événements numériques, pour toute son aide et sa patience, sans qui nos talents d'animateur n'auraient clairement pas été les mêmes. Annick Lebrun pour l'idée originale de nom qui a été choisie. Merci à tous les différents endroits qui nous ont accueillis pour faire la promotion du podcast. Et merci à tous les jeunes et moins jeunes qui ont participé de loin ou de près à ce que le podcast leur ressemble.
Ce projet est réalisé avec la contribution financière de la Caisse Desjardins des Sources.
Le podcast Pas de trouble est aussi financé par le secrétariat à la jeunesse.